Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est une planète qui reste mystérieuse, une des dernières à rester mystérieuse dans le système solaire. Et paradoxalement, c'est aussi la plus proche. Alors, étoile du jour ou étoile du berger, en fonction des époques, elle dissimule sous d'épais nuages, en tout cas, sa vraie nature, sous son atmosphère. Et c'est vrai qu'au bout de 30 ans d'exploration spatiale, on peut dire aujourd'hui que l'exploration démarre d'une certaine façon. Avec une petite sonde européenne qui tourne autour, c'est Vénus Express. Jean-Louis Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au service d'aéronomie du CNRS et après vous êtes penché sur les comètes, sur Mars. Aujourd'hui, vous vous intéressez à Vénus. Mais est-ce que, Jean-Louis, on peut déjà, je dirais, pour dresser un premier portrait de la planète, dire en quoi elle est différente de la Terre? Parce que quand on la regarde, finalement, dans des livres, la taille, la densité, l'atmosphère, l'existence de nuages, finalement, on se dit, à part la distance au Soleil, c'est une petite sœur de la Terre.
Oui, tout à fait, on peut le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est extrêmement intéressante, puisqu'elle ressemble à la Terre par ses caractéristiques physiques, dimensions. Elle est un peu plus près du Soleil que la Terre, et pourtant, elle est, disons, elle est invivable. Par nos critères, elle est absolument invivable. Il fait une température au niveau du sol de 450 degrés, donc trop chaude et complètement différente de la Terre. Alors, vraiment, une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle soit aussi différente?
Oui. C'est avec Mars, finalement, je dirais que c'est la planète des extrêmes, parce que Mars à gauche, pas pourquoi je la mets à gauche d'ailleurs, mais il fait froid. Il n'y a pratiquement pas d'atmosphère et on est loin du Soleil. Et puis Vénus, elle est à droite, donc très près du Soleil, enfin plus proche du Soleil. C'est pas très près d'ailleurs, plus proche du Soleil, mais très chaud. Et entre deux, la Terre. Est-ce que c'est finalement la planète qui sert avec Mars à borner ce qu'est une zone d'habitabilité, par exemple?
Ah, ben, je crois que vous avez choisi le terme exact. Il semble bien qu'effectivement, la distance à l'étoile centrale est un paramètre fondamental pour déclarer si une planète est habitable ou pas. Mais en fait, ça se résume surtout à l'état de l'eau. Est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide, oui ou non? Et en gros, c'est comme ça qu'on définit une planète habitable. Est-ce que l'eau peut être liquide? Et comme vous le savez, l'eau ne peut être liquide qu'entre la température de 0 degré centigrade et 100 degrés, disons, si la pression atmosphérique est celle qu'on connaît sur Terre. Donc effectivement, Mars, là, est un petit peu loin, un petit peu plus loin du Soleil, une fois 1,4, disons. Et là, il y a de l'eau, mais cette eau est sous forme gelée. Et elle a pratiquement, sans doute, toujours été gelée, sauf peut-être tout à fait au début de la planète Mars. On peut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur Mars. Il y a, disons, si on prend toute la glace, on la voit, des épaisses calottes au pôle nord et au pôle sud de Mars. Si on la distribue sur toute la surface de Mars, ça fait des épaisseurs de quelques dizaines de mètres seulement. Ce qui est déjà pas mal, mais en fait, par exemple, il faut se rappeler que la Terre, c'est 2,8 km d'épaisseur. Et quant à Vénus, c'est... actuellement, s'il y a un petit peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Vénus, si on la rassemble sous forme de liquide, cette vapeur, ça fait une pellicule de 3 cm seulement. Donc vraiment, là, c'est un vrai problème. Et je dirais que... Vénus, c'est très intéressant, évidemment, mais en fait, moi, je me place beaucoup dans la perspective, et beaucoup de mes collègues aussi, dans la perspective de, comme vous l'avez dit, l'habitabilité, c'est-à-dire dans toutes les planètes qui sont dans la galaxie, il y en a combien où il y a de l'eau liquide? Et donc, l'histoire de l'eau sur une planète, c'est quelque chose de très, très important.
Mais alors, quand vous dites ce qui reste sur Vénus, c'est ce qui reste ou c'est ce qu'il y avait au départ? Vous le savez, ça?
Eh bien, justement, ça, c'est une grande question et à laquelle, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Et en fait, on pensait qu'on pourrait peut-être arriver à répondre à cette question en étudiant, par exemple, l'isotope lourd de l'hydrogène, ce qu'on appelle le deutérium. Mais en fait, maintenant, on se dit que la situation est peut-être un peu plus compliquée. Alors, je peux essayer de résumer. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y a très peu d'eau à l'heure actuelle. Hein, et donc, on pourrait très bien imaginer que Vénus s'est formée sans jamais avoir beaucoup d'eau. De temps en temps, une comète qui tombe et qui apporte une certaine quantité d'eau. Puis après ça, l'eau est photodissociée et puis finit par s'échapper. Actuellement, d'ailleurs, on estime qu'en quelques dizaines de millions d'années, toute l'eau qui est contenue dans l'atmosphère de Vénus va s'échapper. Donc, ça serait quelque chose de transitoire. Donc, on peut dire que c'est un scénario qui n'est pas du tout à exclure. Mais il y a un autre scénario qui est de dire, franchement parlant, Vénus et la Terre sont tellement semblables que, eh bien, elles ont dû se produire avec les mêmes éléments, donc il devrait y avoir autant d'eau sur Vénus qu'il y en a eu sur Terre. Et là, on a développé un scénario qui date de bien 30 ans et qui est tout à fait assez logique. Il faut savoir une chose quand même, que sur Terre, vous savez qu'il y a une grande différence entre l'atmosphère de la Terre et l'atmosphère de Vénus. Sur Vénus, vous avez une atmosphère pure de gaz carbonique et puis en fait c'est une atmosphère extrêmement dense, extrêmement épaisse. Il y a 90 fois plus de gaz que sur Terre. Alors non seulement il y en a beaucoup plus, mais c'est du gaz carbonique pur, gaz à effet de serre comme tout le monde le sait. Or en fait, sur Terre, imaginez-vous qu'il y a autant de gaz carbonique que sur Vénus, sauf que ce gaz carbonique, il s'est dissous dans l'eau. Et en se dissolvant dans l'eau, eh bien, il a fait des roches sédimentaires, ce qu'on appelle le calcaire. Mmh. Toutes nos montagnes sont faites avec du gaz carbonique qui devait être dans l'atmosphère, qui a été dissous dans l'eau, qui a précipité. Bon. Donc, en fait, il y a autant de gaz carbonique sur Terre que sur Vénus, sauf qu'il est enfoui dans les roches.
Mmh. D'où souvent l'expression, parce que ça, c'est le scénario que vous expliquez, Vénus pourrait être une Terre qui a mal tourné.
Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un effet de serre divergent, c'est-à-dire que, par exemple, au début, il aurait pu avoir de l'eau liquide, mais cette eau liquide se vaporise parce que la planète est plus près du Soleil, ça chauffe, et vous savez que, en fait, dans l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau qui est l'ingrédient principal de l'effet de serre, et donc, à ce moment-là, une atmosphère de vapeur d'eau va être très opaque, ça va continuer à chauffer, ça va chauffer de plus en plus, et à ce moment-là, toute l'eau est vaporisée dans l'atmosphère et puis elle finit par s'échapper. Et donc, le fait qu'il y ait 90 atmosphères de gaz carbonique sur Vénus n'est pas très différent de celui de la Terre. Par contre, la grosse différence, c'est l'eau.
Alors, comment vous allez choisir entre les deux scénarios? Est-ce que vous avez aujourd'hui une inclinaison, et comment vous la justifiez?
Et franchement parlant, à titre personnel, j'avoue que je ne tranche pas, moi. Parce que, disons que j'aurais tendance à dire que finalement, on n'est pas tout à fait sûr de comprendre pourquoi il y a de l'eau sur la Terre. Je pense que c'est ça. On revient, disons, un peu à la case départ. Et comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre? C'est pas absolument évident. Et maintenant, les gens qui semblaient penser il y a 40 ans que c'était quelque chose de facile, que c'était dans les météorites, maintenant on commence à se dire que c'est peut-être un petit peu difficile, que éventuellement parce que les astéroïdes, enfin, ce qu'on appelle les planétésimes, disons, qui étaient disons à peu près à la distance du Soleil à une unité astronomique, en fait ils sont extrêmement secs. Et maintenant il y a quand même une école de pensée qui dit qu'il est possible que la Terre s'est formée à peu près comme Mars, c'est-à-dire sans beaucoup d'eau, mais qu'il y a eu, venant de beaucoup plus loin, disons de 3 à 4 unités astronomiques, un des astéroïdes. Alors là, on sait que dans ces régions-là, il y a beaucoup plus de glace, et qu'il aurait pu avoir déjà une planète presque de la taille de Mars qui aurait percuté la Terre. On sait d'ailleurs qu'il y a une planète à peu près de la taille de Mars qui a percuté la Terre, disons, après 40 millions d'années après qu'elle s'est formée. Est-ce que ça a amené beaucoup d'eau? Est-ce que donc la présence de l'eau sur une planète est-elle un événement tout à fait rare? Naturellement, on comprend que ça, quand on extrapole à l'ensemble des planètes de la galaxie, ça a un impact phénoménal.
Comme disent les gens de science-fiction, c'est un grand trouble dans la force, ce que vous racontez là, parce que ce qu'on croyait figé il y a quelques dizaines d'années, c'est quand même sacrément remué par ce qu'on trouve un petit peu partout, et y compris autour d'autres planètes, parce que les exoplanètes aujourd'hui qui nous montrent qu'on trouve des objets très près de leurs étoiles, est-ce que ça interroge aussi la position de Vénus? Est-ce que Vénus, finalement, comparé aux planètes qu'on trouve ailleurs, on apprend quelque chose?
Eh ben, disons que y a une formule qui doit nous pénétrer vraiment. Vénus est la planète la plus ressemblante à la Terre et la plus proche. Et il n'y en a aucune autre, on est sûr qu'il n'y en a aucune autre, jusqu'à au moins 5 années-lumière, c'est-à-dire le prochain système solaire. Alors, actuellement, on n'a pas trouvé, vous le savez peut-être, de planètes qui sont aussi peu massives que celles que la Terre. On a trouvé, disons, des 5 planètes terrestres, ce qui est déjà tout vrai, et qui sont aussi beaucoup plus proches de l'étoile centrale, mais en fait, qui sont des étoiles qui sont beaucoup moins lumineuses que le Soleil. Donc, en fait, on est pratiquement à la limite de planètes qui sont dans la zone habitable, déjà, des exoplanètes. Mais, en fait, y a-t-il de l'eau sur ces planètes qui sont dans la zone? Elles sont dans la bonne zone, mais on n'est pas sûr qu'il y ait de l'eau dessus.
Ce qu'on a appris, Jean-Louis Berthaud, aussi, c'est que les planètes pouvaient migrer. C'est-à-dire que quand on regarde certaines planètes, on sait qu'elles se sont déplacées. Et est-ce que Vénus pourrait venir d'ailleurs? Alors, ailleurs au sens où... Ailleurs, pas sur la même orbite où elle est aujourd'hui, quoi.
Là-dessus, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais je n'ai pas entendu dire, si vous voulez, que les orbites de ces planètes telluriques aient beaucoup changé. Par contre, c'est clair qu'au moment de leur formation, alors d'abord, tout le scénario de formation a été vraiment dominé par l'existence de Jupiter, qui lui a peut-être bougé un peu au début, mais s'est fixé à 5 unités astronomiques. Après ça, Jupiter a dirigé toutes les collisions de tous ces morceaux les uns sur les autres, et effectivement, ça a permis l'accumulation de matière à... Une unité astronomique, ça a fait la Terre. À 0,7 unité astronomique, ça a fait Vénus.
Alors, revenons, si vous le voulez bien, à ce qu'est Vénus aujourd'hui. Et je dirais que quand on regarde presque comme un voyageur qui se poserait dessus, hein, une image mentale, c'est quand même un drôle de monde. D'abord, c'est une planète qui tourne sur elle-même en 243 jours. Alors, 243 jours, il faut se souvenir que la Terre, c'est 24 heures, en tout cas. 243 jours, c'est extrêmement lent. Ça veut dire qu'il y a une face qui est tout le temps éclairée, entre guillemets, par le Soleil, et l'autre qui est tout le temps à l'ombre. Déjà, ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Hein. Et en plus, c'est un mouvement rétrograde. C'est-à-dire que si on voyait le Soleil se lever, il se lèverait à l'ouest et il se coucherait à l'est. Ça, c'est déjà une première curiosité.
Oui, en fait, on l'a pas su tout de suite, ça, parce que quand on regarde Vénus, on voit pas le sol. Donc, il a fallu attendre des mesures au radar pour comprendre quelle était la vitesse de rotation de la planète Vénus. Alors, le solide lui-même se tourne en 243 jours, mais quand on sait que Vénus tourne autour du Soleil en 225 jours, là, on a un exemple curieux où la durée du jour de Vénus est plus longue que la durée de l'année. C'est quand même assez curieux. Et alors, et en plus de ça, comme vous l'avez dit, elle tourne dans le mauvais sens, hein, dans le sens rétrograde. Toutes les planètes tournent dans le même sens autour du système solaire, y compris Vénus. Mais par contre, Vénus se tourne dans le sens contraire de la rotation de la Terre, par exemple.
Ça nous dit quoi sur elle, ça?
Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'elle tourne d'abord très lentement et puis dans le sens opposé? Alors là, il y a plusieurs théories qui sont pas vraiment tranchées. Il y en a qui ont parlé de collision. Il y a quand même maintenant des études théoriques sur l'action du Soleil sous forme d'ondes, de marées, sous forme de marées, disons. Et ces marées influencent beaucoup l'atmosphère de Vénus. Et comme cette atmosphère est très épaisse, ça finit par agir sur la rotation de Vénus. Donc en fait, il y a, disons, des théories qui sont assez convenables pour expliquer que finalement, ça a ralenti à cause de ces effets de marée qui sont dus. Alors, l'effet de marée, c'est surtout dû au fait que, disons, d'un côté de la planète, le Soleil chauffe énormément l'atmosphère, donc elle se gonfle, et puis de l'autre côté, ça refroidit très rapidement parce que ça rayonne vers l'espace. Donc finalement, ça finit par agir sur toute l'atmosphère, et de l'atmosphère, ça finit par frotter sur le sol.
C'est la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas de température moyenne sur Vénus? Un côté éclairé très longuement et un côté obscur, on se dit que ça doit provoquer des agitations.
Alors finalement, disons, l'atmosphère est tellement dense qu'au niveau du sol, bien que la durée du jour soit très longue, la température est très homogène jusqu'à peut-être au moins 50 km d'altitude. Et ça n'est que vraiment dans la très haute atmosphère qu'on commence à avoir, pratiquement au-dessus de 100 km, qu'on commence à avoir des différences de température entre le côté jour et le côté nuit. Et il y a même un endroit, disons, d'un côté nuit, où il y a une température la plus froide du système solaire interne, 150 degrés Kelvin, et qu'on a appelé même la cryosphère, tellement c'était froid.
C'est très surprenant les dimensions que vous donnez, parce que nous on est habitué à dire l'atmosphère terrestre, tous les montagnards le savent, hein, au-delà de quelques milliers de mètres, on a perdu un sacré paquet d'atmosphère, on a du mal à respirer. Là vous parlez de 50 km, 100 km, on est vraiment dans un autre monde pour le compte.
Disons que, en fait, l'avantage de 50 km d'altitude sur Vénus, c'est quand il y a des températures qui sont à peu près confortables, disons.
Mais ça reste dense.
Non, là, il y a par exemple, à 50 km, en gros, il y a une atmosphère, c'est-à-dire que la même pression qu'ici, une température qui est voisine de celle d'ici, par exemple. Donc, par contre, alors, il y a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de gradient adiabatique, qui fait que dans une atmosphère quelconque, pratiquement toujours, quand vous descendez, eh bien, la température monte. Hein, et c'est le cas de la Terre, par exemple. Vous savez que si vous vous élevez en altitude, la température descend. Et si, sur Vénus, c'est pareil. Mais ça, c'est dû à des propriétés fondamentales des gaz, de la loi des gaz parfaits. C'est-à-dire que quand un morceau d'air se dilate, c'est-à-dire sa pression diminue, eh bien, sa température diminue. Et le contraire, c'est quand vous comprimez un gaz, eh bien, il se chauffe. C'est comme vous avez une pompe de bicyclette dans la main. Eh bien, vous pompez, vous voyez bien que la température de la pompe augmente. Par le même effet, disons, finalement, il fait très chaud au niveau du sol parce qu'il y a aussi une très épaisse atmosphère. Les deux sont vraiment liés.
Ouais, il n'y a pas de physique vénusienne, il y a une physique universelle. on a souvent, d'ailleurs, c'est marrant, quand on lit la littérature scientifique sur Vénus, beaucoup de gens essaient d'expliquer ce qui se passe au sol en disant, finalement, c'est comme si on était au fond de l'océan avec une extrême pression et que on y rajoute la chaleur et voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on est totalement écrasé. C'est très difficile d'imaginer ce que vivrait et supporterait un voyageur à la surface de Vénus. Enfin, c'est impossible.
Oui, peut-être que la comparaison avec le liquide est intéressante, mais encore que, en fait, c'est quand même moins dense que l'eau. Hein. Disons, le gaz est quand même à peu près 10 fois moins dense que l'eau quand on est au niveau du sol. Mais il y a très très peu de vent, ça bouge très peu et ça doit être assez épais. Mais enfin, je pense qu'on pourrait se déplacer sans problème à la surface de Vénus si on était capable de supporter la température.
Alors ça, c'est une drôle d'histoire aussi, parce que on dispose aujourd'hui de très très peu d'images in situ, comme on dit d'ailleurs, de sondes qui se soient posées à la surface de Vénus. Ce sont les soviétiques avec Venera 13 en 1900.
Venera 8, Venera 9,
il y a eu tout un paquet.
Il y a eu tout un paquet de sondes. C'est surtout à partir de Venera 9, je crois, qu'il y a eu les premières photos. Oui.
On dit souvent qu'ils ont compris comment se poser à la surface de Vénus en imaginant un bathyscaphe. C'est-à-dire en imaginant un sous-marin capable de résister aux fortes pressions et à des très grosses chaleurs.
Ah bah oui, tout à fait. Leur première sonde, ils n'avaient pas imaginé que la pression était aussi forte et elles ont explosé en vol, ils ont implosé en vol. Et donc ils ont compris que la pression était de plus en plus grande et ils ont construit de plus en plus solide leur système de plongée, si on peut dire. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que en général, sur les autres planètes, il y a des systèmes de parachutes qui vous amènent jusqu'au sol. Et bien en fait, sur Vénus, la densité est tellement énorme qu'effectivement, au début, il y a des parachutes, mais à une certaine altitude, environ peut-être 50 km, on enlève tous les parachutes et la sonde tombe comme ça, elle a juste une petite jupe aérodynamique et donc ça tombe assez vite au début, mais finalement au niveau du sol ça tombe assez lentement, simplement parce que la résistance de l'air est énorme.
Elle coule, c'est un vrai sous-marin.
On peut dire qu'elle coule, oui.
On n'a pas tellement suivi l'exploit soviétique. Finalement, il y a eu des premières images et puis après, on a abandonné Vénus en exploration directe. On n'a pas envoyé depuis ces sondes Vénéra de sondes se poser à la surface. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile ou finalement, vu d'en haut, c'est plus confortable?
On peut dire que les deux, mon capitaine. Hein. En fait, c'est vrai que c'est vraiment, pour l'instant, on a maîtrise pas les technologies, disons, qui permettent d'avoir un matériel qui va résister très longtemps à la température. C'est pas tellement la pression, mais c'est la température de plus de 400 degrés centigrades. Ça, on ne sait pas faire de l'électronique qui tient. Alors, on saurait faire, disons, mais c'est très cher. Il n'y a pas que l'électronique, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, effectivement, c'est quand même, disons, dans les cartons des agences spatiales, un projet tout à fait important. Ça va peut-être se faire un jour. Par exemple, chez les Américains, c'est un des candidats des grandes missions spatiales, les missions qu'on appelle les flagships, c'est-à-dire vraiment une grande mission. Ça serait effectivement de poser quelque chose sur Vénus et qui durerait plus longtemps que les 2 heures classiques.
Parce que ça fait fondre le plomb, 450 degrés.
Oui, oui, ou l'étain, oui. Enfin, oui, c'est ça, oui, oui. Non. Et par exemple, ça fait brûler aussi le titane. Et donc, par exemple, il y avait une sonde américaine Pioneer Venus, il y avait 4 sondes et qui, en fait, ne sont pas arrivées intactes au niveau du sol, et elles ont toutes arrêté leur transmission, et on soupçonne qu'effectivement, il y avait des composants en titane qui ont simplement brûlé.
C'est pas une mince affaire, hein. c'est quand même une planète sacrément hostile.
Style, moi, je l'aime bien la regarder, je vous dirais. Ouais. C'est, donc là, quand on la regarde dans le ciel, sur Terre, on la trouve pas hostile. Et d'ailleurs, je conseillerais à tout le monde de vraiment de faire un effort spécial pour bien l'observer quand elle est visible et pour la suivre de jour en jour, soit après le coucher du soleil, soit avant le lever du soleil. Quand on se lève tôt par hasard et tout d'un coup on est face à Vénus, moi je trouve que c'est un coup de poing dans l'estomac, c'est très, très impressionnant.